Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain contre la Corruption, et il a un beau gilet jaune, Jean-Luc Touly.
Bonjour.
Bonjour. Non, j'admire ce gilet jaune qui vous va à merveille. Ludovic de Villèle, avocat.
Bonjour,
lui étant en costard cravate. Donc, et Alexis Poulain, journaliste spécialisé des questions européennes. Également, il n'a pas de gilet jaune. Donc,
c'est Paris-Provence. Quoi.
C'est Paris-Provence. On va parler bah oui, de cette manifestation du 17 novembre. Encore, on en a beaucoup parlé hier, mais Christophe Castaner, ce matin, a déclaré qu'il ne voulait pas de blocage et qu'il ferait intervenir la police pour faire cesser toute tentative de bloquer les routes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il a raison d'afficher sa fermeté ? Est-ce que vous êtes déterminé à aller manifester ? On en parlera dans un instant. On parlera également, donc, c'est le 13 novembre aujourd'hui, 3 ans après les attentats, où en étant de la lutte contre le terrorisme. Et puis on verra en suivant l'émission, parce qu'on a rarement le temps d'aborder tous les sujets. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec celui de Judith.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est Jean-Michel Blanquer, qui a déclaré hier à l'émission LCP Le Figaro qu'il fallait s'attendre à la fermeture imminente d'établissements scolaires salafistes.
Oui, vous avez répondu chiche sur Twitter.
J'ai répondu, j'attends de voir.
Là, ouais, bon, c'est
ça. Puisque c'est imminent et qu'il me demande de m'y attendre, je m'y attends. Mais simplement, tant mieux qu'il le fasse. Il se trouve qu'en dehors des salafistes, en fait, les plus insérés dans le système scolaire français, ce sont les frères musulmans. Oui. D'après un rapport qui a été fait par le gouvernement, à la demande du gouvernement en 2010, les frères musulmans étaient à l'origine de la moitié des projets d'établissements scolaires musulmans en France. On connaît tous le cas du lycée Averroès de Lille,
oui,
où il y a eu de multiples problèmes, il y a eu des enquêtes, notamment une enquête qui a estimé que globalement, c'est le seul lycée privé musulman sous contrat de France, que globalement, ils respectaient les obligations auxquelles ils étaient soumis, mais qu'il y avait quand même des petits trucs qui n'allaient pas, et notamment dans le fait que beaucoup d'intervenants extérieurs étaient proches des frères musulmans ou développaient des idées qui étaient assez peu compatibles avec la République.
Mais il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a jamais eu de...
Il y a eu une polémique avec un prof de philo qui a démissionné parce qu'il avait fait une tribune en 2015. Il s'appelle Sofiane Zitouni, où la tribune était titrée « Le prophète est aussi Charlie ». Et ce prof raconte qu'il avait été l'objet de menaces physiques et d'ostracisme de la part de certains de ses collègues en décrivant un lycée où vraiment l'empreinte islamiste était très forte.
Il a
été condamné.
Vous pensez que Jean-Michel Blanquer n'arrivera pas à faire fermer ses écoles salafistes ?
D'abord, j'aurais bien aimé qu'il y ait une commission d'enquête sur le sujet parce qu'il y en a une qui a été demandée, elle n'a jamais vu le jour. Donc là, pour le coup, il faut absolument savoir de quoi on parle, savoir où ça se passe et être très précis.
Mais oui, ce matin, Christophe Castaner évoquait aussi le cas de cet imam à Toulouse qui avait proféré des menaces antisémites en disant qu'il avait demandé à ce qu'on examine le cas de cet imam. Donc voilà, on est dans le... on attend.
Oui, non, mais de toute façon, on ne peut pas condamner les gens ou fermer des établissements.
Sans preuve, il faut qu'il y ait des enquêtes, absolument.
Il faut qu'il y ait des enquêtes et des enquêtes approfondies, sachant que... Il y a chez les islamistes une méthode qu'on appelle la taqiyya, qui consiste à adopter le discours que vos interlocuteurs attendent de vous pour faire avancer la cause, c'est-à-dire un double langage.
C'est plutôt une bonne nouvelle si les suppressions de postes annoncées, les 2650, sont particulièrement dans ce genre d'établissement.
Jean-Luc Touly, votre coup de gueule ?
Alors mon coup de gueule, c'est mon syndicat.
FO ?
C'est Force Ouvrière. Parce que j'étais, il y a quelques années, à la CGT, j'avais dénoncé à travers 2 livres, justement, un certain nombre d'anomalies, de dérives, de dysfonctionnements des dirigeants, pas des syndiqués. Et là, je vois qu'à Force Ouvrière, à la fois Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau, qui semblaient être des gens plutôt intéressants, qui défendaient bien les salariés, ont bénéficié de revenus et de notes de frais absolument démentes. Et donc, c'est encore un mauvais signe sur un corps qui... On a besoin des syndicats. Hein, et aujourd'hui, les syndicats sont tellement faibles que ça ne va pas aider, effectivement, à la resyndicalisation.
C'est quoi? C'est « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ».
C'est
un peu
C'est l'affaire
étonnant.
Thierry Lepan qui reprend.
Ouais. Hier, Jean-Claude Mailly parlait de vengeance, de représailles, justement, de...
Oui, mais de toute façon, que ce soit Mailly d'un côté ou Pascal Pavageau qui était dans une autre tendance, les deux ont bénéficié, et pas que deux, hein, apparemment l'ensemble du bureau confédéral ont bénéficié de beaucoup de largesse en termes de notes de frais. Quoi.
Est-ce que, si je peux ajouter un mot, au-delà des comportements personnels qui peuvent être réprochables, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour se poser la question dans ce pays des moyens des syndicats au sens où actuellement, le niveau de vie d'un syndicat n'a quasiment aucun rapport avec son nombre d'adhésions. C'est-à-dire que les syndicats vivent...
Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Ont énormément d'argent.
Mais Judith, rappelez-vous qu'un député de droite, Nicolas Perruchot, avait tenté dans une commission d'enquête parlementaire.
Je sais bien, parce que je l'avais fait s'exprimer dans un dossier que j'avais fait sur ce sujet pour le Figaro magazine.
Tabou, quoi.
Oui, et beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est pas normal que les syndicats, en fait, n'aient pas à avoir des adhérents, puisque l'État et les entreprises, les deux, leur permettre de vivre, mais rien ne se fait.
Alors, Alexis Poulain, votre coup de gueule ?
Moi, c'est un coup de gueule qui fait suite à la mobilisation du 17 novembre, en fait, par rapport à la voiture, où on apprend aujourd'hui que le Grand Paris va interdire les diesels d'avant 2001 à entrer dans Paris. Donc on a un peu... alors c'est bien, hein, parce que le diesel, c'est polluant, etc. Mais comment on va faire quand on a une vieille voiture, qu'on n'a pas les moyens de se rééquiper avec une voiture moins polluante, plus récente, pour la mobilité? Alors on entend partout, ville du futur, la mobilité, la clé de la ville de demain, etc. Et on a systématiquement que des mesures coercitives, pour le bien de l'humanité, hein, c'est pour sauver la planète, c'est pour sauver nos poumons qui sont attaqués par les particules fines, qui ne viennent pas d'ailleurs que de la circulation, elles viennent pour beaucoup de l'épandage dans les champs, et aussi des centrales à charbon d'Allemagne qui sont poussées par le vent. Donc on vit dans un bocal assez pollué, et la voiture n'est pas seul responsable de ça. Seulement, c'est toujours la voiture sur laquelle on va taper. Et là, quand on tape sur le principe de dire...
Enfin, 2001, ça fait une voiture qui a presque 18 ans, 17 ans.
Bah oui, ça fait une voiture qui a 18 ans, ça veut dire qu'on la garde parce qu'on n'a pas les moyens d'en changer. Et là, on va dire à ces gens-là...
Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Alors, déjà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et deux, pourquoi emmerder ces gens-là sachant qu'il n'y en a pas beaucoup? Donc, c'est un peu trop facile, je dirais, de sortir des mesures soi-disant écolo pour
les primes de 2500 euros, ça couvre pas l'achat d'une voiture.
Ça couvre pas l'achat. Et sachant qu'on est infoutu de mettre la circulation alternée quand on a des pics de particules fines. Il faut attendre 5 jours avant qu'on mette la circulation alternée. On crève. Mais faire des mesures comme ça, par contre, ça, c'est d'un claquement de doigts, on y arrive. Donc voilà,
puisqu'on parle d'écologie, je vais faire une précision. Parce qu'hier, Sophie de Menton a fait son coup de gueule sur le tweet de Brune Poirson qui interpellait la grande distribution Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché. Du coup, vous aussi, vous allez aussi faire le bio à prix coûtant. Donc elle les interpellait en leur disant vous qui défendez l'environnement, d'un seul coup quand il y a une mesure qui va pour l'environnement, vous ne jouez pas le jeu. Donc moi j'avais plutôt défendu Brune Poirson hier, mais visiblement son attaché de presse a trouvé que on n'allait pas assez loin. Donc voilà, je précise, Sophie de Menton n'avait pas compris le tweet ironique de Brune Poirson. Donc on précise que c'était ironique et que c'était pour lutter contre ceux qui affichent le greenwashing. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est démagogique de la part des grandes surfaces. Je l'ai dit hier, donc je le dis à l'attention de l'attaché de presse de Brune Poirson qui n'était pas content de ce qu'on avait dit. Donc je précise les choses aujourd'hui.
Mais toujours dans le même ton ironique, je voudrais rappeler que ma collègue Brune Poirson, directrice du développement durable de Veolia, notamment en Inde, aussi d'une association, elle devrait aussi dire à son ex-entreprise de pratiquer des prix de l'eau et de l'assainissement à prix coûtant, vous voyez, parce qu'ils se font des marges quand même assez, assez importantes, mais je pense qu'elle a dû oublier, donc si elle l'entend... qu'elle fasse passer le message au PDG de Veolia de Suez, ça bénéficiera à tout le monde.
Là, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises qui affichent une volonté de faire plus vert et qui, quand ça les arrange ou pour des efforts de communication, font un petit peu l'inverse. Voilà. On va passer à votre coup de fil, à votre coup de... Ouais. Mais j'ai fait exprès de vous garder pour la fin parce que ça va nous amener... je connais votre coup de gueule, ça va nous amener à la suite de notre débat.
Mon coup de gueule concerne un peu le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement fonctionnement de notre démocratie depuis l'élection d'Emmanuel Macron, où finalement beaucoup de choses ont été balayées. Alors c'est un courant d'air peut-être un peu frais, mais je trouve extrêmement dangereux. Et cette manifestation de samedi prochain, du 17 novembre, on est tous pour, forcément, le prix du carburant, forcément, on est tous des automobilistes. Donc on ne peut évidemment qu'être sensibilisé par ça. Mais il y a un grand danger, je trouve, au travers de cette manifestation. D'autres qui l'ont précédé et d'autres qui vont venir, c'est que finalement, le pouvoir est dans la rue. Je ne crains absolument pas la révolution, mais tout à l'heure, Jean-Luc Toulouse parlait des corps intermédiaires. Les syndicats sont faibles, les partis politiques sont quasiment inexistants. Ce n'est pas le fait que M. Macron fasse tout ce qu'il veut. Ça, pour moi, ce n'est pas un sujet. C'est le fait que ceux qui sont là pour parler à notre place, parce qu'on les a élus, ne font plus leur travail, parce que les partis ne sont pas là. Et notre démocratie, en tout cas, la Ve République, fonctionne avec un pouvoir et un Parlement. Aujourd'hui, ce Parlement ne fonctionne pas. Ces syndicats ne fonctionnent pas. Du coup, les Français sont dans la rue. Alors c'est sympathique, ça peut être, on verra comment ça se passera.
Je sais pas si sympathique est le mot.
Non mais au moins les Français s'emparent de quelque chose. Ça c'est bien, mais on est tous multi, on est plein de contradictions parce qu'on est écologiste le dimanche, on prend notre voiture le lundi, et je pense qu'on fait rien avec tout ça. C'est des coups de gueule, on fait des choses, ça ne fait pas avancer seulement notre démocratie.
Vous pensez pas que ça fera avancer les choses ou en tout cas changer le gouvernement? Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions en tout cas.
Oui, mais alors c'est du coup par coup, c'est pas une vraie politique pour l'avenir. Vous voyez, on va mettre
la politique pour l'avenir. C'est de dire qu'il faut arrêter de rouler.
La politique pour l'avenir, c'est de fournir des alternatives.
Ouais.
C'est ça le gros problème. Parce que, absolument, vous dites on est tous pour. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre l'augmentation du prix des carburants, à condition d'une part qu'il y ait une alternative et d'autre part que l'argent récolté aille à la transition écologique. Or, c'est non dans les deux cas. Il n'y a pas d'alternative. Et l'argent récolté ne va qu'à 20%, 19-20% à la transition écologique. Et pourquoi tout ça? Eh bien, fondamentalement, parce qu'on a un gouvernement qui, contrairement à ses promesses, ne fait aucune économie. Donc, il n'a pas d'argent.
Il n'en fait pas. Et je crois qu'il y a aussi... les institutions fonctionnent. Seulement, elles fonctionnent pour le 1%. Pour les gens qui vont financer, pour les lobbies, pour les gens qui ont mis en place un gouvernement comme celui-là. On a oublié les couches populaires depuis des années. Là, maintenant, c'est flagrant. Je pense que ce mouvement-là, justement, il est protéiforme et tout de suite, on l'accuse de poujadisme parce que c'est cette classe oubliée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait une politique d'abord pour Veolia, d'abord pour Total, d'abord pour Engie, pour que les grands champions français puissent faire encore plus d'argent sur les marchés internationaux. Mais pour les travailleurs français ou les chômeurs français, c'est extrêmement compliqué. Donc, ces gens-là sont toujours oubliés des politiques.
En tout cas, le gilet jaune est obligatoire pour des raisons de sécurité, en dehors de la manifestation.
Parce
que tout le monde ne l'a pas forcément, donc je rappelle que c'est obligatoire.
Et le triangle, Jean-Luc.
Et je pense que c'est la goutte d'eau, hein, parce que les retraités, tout un tas de choses qui font que c'est le ras-le-bol qui surgit.
On va en reparler dans un instant. Donc, le gouvernement affiche sa fermeté ce matin à travers les mots de son ministre de l'Intérieur. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. On est ensemble avec vous jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, on est en direct pour commenter l'actualité avec Judith Weintraub, Jean-Luc Touly, Ludovic de Villèle et Alexis Poulain. Alors ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a marqué sa volonté de fermeté en disant qu'il ne tolérerait pas, le gouvernement ne tolérerait pas les blocages et que la police, les forces de l'ordre interviendraient pour lever tout blocage total lors de la journée de manifestation des Gilets jaunes le 17 novembre prochain. On est en ligne avec Priscilla Ludowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'initiatrice de la pétition contre la hausse des carburants. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration du ministre de l'Intérieur?
Pour moi, elle n'est pas étonnante. Hein. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait une menace et puis ça dissuade, ça peut-être pour dissuader les personnes qui souhaitent manifester. Mais bon, je pense que ça ne fera pas reculer les personnes qui ont décidé de venir bloquer les axes ou à le périph ou autre lieu de circulation.
Oui, vous pensez que c'est quoi? C'est fait pour
faire peur.
Pour faire peur, comme dit Jean-Luc Touly?
Oui, je pense, c'est ça. C'est un moyen de dire, voilà, attention, si vous circulez ou si vous comptez manifester, c'est une manière de dissuader à participer à la manifestation. Ouais.
Ouais. Et vous avez le sentiment qu'il y aura beaucoup de monde ce jour-là?
Oui, c'est pas un sentiment, pour moi, c'est une quasi-certitude, oui.
Quasi-certitude. Et donc, l'idée est de bloquer totalement la circulation.
Alors, l'idée, c'est pas de bloquer pour bloquer. C'est pas du tout ce qu'il faut retenir, à mon sens. C'est le message qu'il y a derrière. Je pense qu'il y aurait parfaitement eu moyen de ne pas en arriver là si, depuis le début que j'avais lancé ma pétition, j'avais eu un retour et une réponse concrète à mes interrogations. Donc c'est bien beau aujourd'hui de dire « Attention, si vous allez manifester, on sera là pour vous arrêter. Si vous comptez bloquer, on vous donnera des amendes ou quoi. » Mais peut-être qu'il faudrait considérer un petit peu plus ce qu'on a à dire et avoir le respect de recevoir les personnes qui ont un questionnement.
D'accord, merci. Alors, Judith Weintraub avait une question à vous poser.
Bonjour, juste une petite question. J'ai lu hier dans Le Monde, pour ne pas le citer, qu'une partie du mouvement, mais ce n'était pas vous, considérait que l'objectif devait être de marcher sur l'Élysée. C'est votre objectif aussi ?
Alors, c'est le message qui a été lancé par les organisateurs de la manifestation. Effectivement, c'est que suite à on appelle ça un road trip plan ou un... une opération escargot, c'est effectivement que tout le monde se dirige vers l'Élysée. Ouais.
Donc vous confirmez que c'est l'objectif, d'accord. Matin.
Donc là, vous êtes en train de...
L'objectif, c'est surtout de se faire entendre.
Après, oui, c'est de se faire entendre. Mais...
Et dans la bonne humeur.
La forme que cela prend, ensuite, faut aussi comprendre que c'est le ras-le-bol qui se manifeste. Et je pense que toute personne en colère n'arrive pas avec un bouquet de fleurs. Voilà, oui. Donc la forme, forcément, ça se manifeste par un blocage, ça se manifeste par de la marche pour certaines villes, ça se manifeste par le blocage de certains axes en particulier. Malheureusement, on en arrive là, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et c'est surtout ça qu'il faut retenir.
Est-ce qu'il y a des déclarations de ces manifestations ? Parce que c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur ce matin, je respecte le droit de manifester, j'invite à la déclaration et à une bonne organisation de la manifestation. Donc c'est quoi une bonne organisation de la manifestation ?
Alors, une bonne organisation, je suppose que ce qui fait peur, surtout, c'est que ce n'est pas un syndicat ou une grande organisation connue qui est à la tête de la manifestation.
Donc, voilà, ils n'ont
pas la possibilité de quantifier ou de mesurer l'importance que cela va prendre. Et effectivement, le manifester dans la légalité, sans qu'il y ait de violence, etc., c'est le message qui est passé par les organisateurs. Mais voilà, il n'y a pas d'organisation à la tête en particulier, donc forcément,
c'est
la manifestation des
choses.
Citoyens. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui peut-être fait peur. Mais encore une fois, on aurait pu ne pas en arriver là.
Merci beaucoup, Priscilla Ludowski, d'être intervenue. Jean-Luc Touly, vous dites, c'est effectivement ce que disait Christophe Castaner ce matin, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale. Ils ont l'habitude d'organiser des choses.
Oui, et puis il n'y a jamais de débordement, comme chacun sait.
Voilà. Surtout dans les dernières manifestations syndicales, unitaires ou pas, au moment de la loi El Khomri, on avait des parcours, on avait des policiers en grand nombre, et ça n'a pas empêché des débordements.
Absolument.
Donc, mais regardez sur la manifestation des ambulanciers sur le périph' il y a une semaine, les débordements venaient de la part de la police. Vous avez vu cette vidéo où il y a une charge de CRS extrêmement violente, où ils vont jusqu'à frapper des journalistes.
Il ne faut pas qu'ils jouent à la provocation,
non,
en tout cas.
Voilà, donc attention.
Oui, mais ça, c'est maintenant, quand même... avec les téléphones, les réseaux sociaux, je pense qu'ils peuvent...
Et puis le message des organisateurs, c'est quand même que ça soit un peu festif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le... Même s'il y a des revendications très sérieuses, comme ça vient d'être dit, on n'est pas là pour jeter des tomates, par exemple.
Oui.
Mais je ne suis pas sûr que le message de M. Castaner fasse peur ou dissuade, parce que, d'abord, contrairement aux autres manifestations, là, s'il y a 600 points, donc ça va être... C'est peu de personnes à chaque endroit. Il ne s'agit pas d'un cortège, a priori. Bon, et puis un ministre de l'Intérieur qui vient vous dire, dès qu'il y aura un blocage, j'interviendrai. C'est fou de dire ça, parce qu'il faut qu'ils tiennent parole maintenant. Donc, qui viennent dire « j'attends que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, il n'y a pas besoin d'être ministre pour le dire, c'est complètement idiot ».
On peut le comprendre peut-être, parce que dimanche dernier, pour la protection du président des États-Unis, on a vu qu'il y a quand même quelques jeunes filles qui sont venues.
Et on était sur les Champs-Élysées.
Et pourtant, c'était sécurisé.
Voilà. Hein. Mais qui viennent dire « je ferai intervenir la police », forcément, c'est un pari... dingue pour lui, parce qu'il y aura nécessaire, enfin malheureusement sans doute, peut-être des débordements.
Il y aura forcément
pas prendre Paris.
Oui, depuis le début, on a l'impression quand même que ce soit Emmanuel Macron d'ailleurs ou ses ministres, qu'ils ne savent pas comment prendre ce mouvement qui est effectivement protéiforme, sans leader identifié. Mais en tout cas, ils s'y prennent extrêmement mal. Je repense à la déclaration de Benjamin Griveaux sur les gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ça alterne entre le mépris et la menace. Il ne me semble pas que ce soit la meilleure façon.
Ah, depuis que
dites-nous ce que
parti,
vous en pensez. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi en direct, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain, avec son gilet jaune. Grand Front Républicain contre la corruption. Ludovic de Villèle, avocat, et Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes. Et on a un auditeur fidèle, Gourdance, qui nous dit si j'avais plus d'argent, si j'avais de l'argent, je me serais payé un gilet jaune. Mais c'est obligatoire, le gilet jaune.
Normalement, c'est obligatoire.
Quand on a une voiture, on est obligé.
Ça doit être fourni dans le... Donc, si ce n'est pas le cas, qu'on relève les marques et qu'on fasse aussi une
attention, Gourdance.
Jean-Luc Souli, je vous invite à couper votre gilet jaune, comme l'a fait Saint-Martin, dont on était la fête hier, et à l'offrir à cet auditeur.
Mais et au chien de Juliette.
Mais je voulais qu'on revienne sur ce que vous disiez, Ludovic de Villèle, sur ce mouvement. Les gens vont dans la rue, vous dites la démocratie est en danger. Moi, j'entendais ce matin des gens qui ont l'intention d'aller manifester et qui disaient c'est même plus le prix de l'essence aujourd'hui. C'est tout. C'est vraiment une agrégation, une sorte de ras-le-bol.
C'est un ras-le-bol justement populaire par ce lâchage des politiques qui fait sécession avec le peuple, simplement en disant on n'en a rien à foutre de vos gueules. Ce qui nous intéresse, c'est l'économie d'abord, c'est les profits, c'est l'emploi, c'est des choses qui, bien sûr, sont nécessaires à tous. Mais quand on entend cette colère populaire, la réponse, c'est quoi? C'est la force et le mépris. C'est ça le ras-le-bol. Il est là, je pense. Au lieu d'avoir l'écoute, soi-disant Emmanuel Macron a fait une itinérance mémorielle pour aller écouter les Français, vous avez vu l'écoute que ça a été. C'était quand même assez tendu, assez nerveux, cette écoute-là. Peut-être qu'il en sortira quelque chose, mais on voit bien que vu que le dialogue est rompu dans les corps intermédiaires, les syndicats qui ont beaucoup de problèmes, les partis traditionnels qui ont beaucoup de problèmes, qu'est-ce qui reste? La rue. Alors c'est une énième mobilisation comme celle-là, qu'est-ce qu'il en viendra après? Le poujadisme, c'est la même chose, c'est la naissance du Front National d'une certaine façon, parce qu'à ce moment-là, il y a le même ras-le-bol sur les... Alors là, c'était les petits commerçants, qui mouraient parce que justement il y avait les grandes surfaces qui s'installaient. Là, c'est un peu la même chose.
Et on parle des années 1930 pour faire peur aux Allemands. Alors que c'est pas exactement
c'est pas
le même.
Non, c'est pas du tout ça. Moi, je pense que c'est pas du tout les mêmes mécanismes qui sont là.
Oui, et puis ça, Emmanuel Macron l'a fait tout au long de son itinérance et même dans son discours sous l'Arc de Triomphe, où il traçait une espèce de perspective historique qui passait par la Première Guerre mondiale, la Seconde, pour aller vers les européennes, en fait. Il s'est quand même débrouillé pour ne citer ni le nazisme, ni le fascisme, tellement il voulait ne parler que de populisme et de nationalisme, parce qu'il visait, évidemment, Salvini et Orban.
Oui, tout ça, même si autour de cette table, on en convient que les partis politiques, les syndicats ne jouent pas leur rôle, finalement, ça va servir M. Macron. Dans 2 ans et demi, il y a des élections, comme il n'y aura personne en face de lui, forcément.
Il y a du monde. Non, je pense qu'il y a du monde, justement.
Je crains que
pense que cette situation, elle va trouver un terme. Il faut le souhaiter pour notre démocratie. Je ne suis pas plus inquiet que ça à long terme. Mais à court terme, et ça peut durer plusieurs années, il va falloir que l'on retrouve nos repères. Et encore une fois, la politique, elle se fait au Parlement et au gouvernement, pas dans la rue. On va effectivement à l'écoute des Français, c'est normal. Ouais. Mais c'est pas avec ça qu'on tire une politique. On va plutôt les écouter pour...
Voilà, qu'est-ce qu'on ressent ?
Oui, mais c'est tout. Ça va pas plus loin.
Le capital, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire. On n'en est pas loin.
Quoique, oui, c'est ça, avec les nouveaux... dit le syndicalisme. C'est un peu
il faut avoir de l'humour un petit peu.
Pas le socialisme.
Dans un monde de brutes.
Je ne sais plus. Écoutez, on va voir ce que va donner cette manif, si effectivement... ils sont embêtés, effectivement, ce que disait Castaner. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une organisation syndicale qui a l'habitude de faire une manifestation qui l'organise. Par exemple, une manifestation, ça se déclare à la préfecture. Oui. Très peu l'ont déclaré. Je ne sais pas ce que ça va changer sur le fond. Mais
ça, c'est toutes les semaines ou tous les jours que des préfets ont dans leur région, dans leur département, des manifestations qui ne sont pas prévues. Il a l'air d'être désabusé. Ah bon, on peut aujourd'hui manifester.
Si on regarde,
c'est pas bien.
Un
cours de droit.
Le nombre de tonnes de fumier qui ont été déversées devant les préfectures par les agriculteurs en colère, je pense qu'on n'a pas envoyé la police, on les a laissé faire et les journalistes étaient là pour prendre les photos, donc ça va.
C'est plutôt la FNSEA qui a fait ça, c'est les agriculteurs, et c'est pas eux qui polluent aussi un petit peu, sans attaquer les agriculteurs, mais quand même.
Le numéro 2 de la FNSEA va être sur la liste européenne d'En Marche, donc voilà.
Allez, on a Jean en ligne avec nous, pardon. Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Ah, vous avez votre gilet jaune ?
Oui, ça, c'est obligatoire, on en a un partout. Hein. On en a dans le scooter, dans la voiture, dans mon diesel, partout. Hein.
Ouais. Et pour aller manifester aussi ?
Salut, camarade.
Écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai fait des manifestations dans mon organisation patronale de l'hôtel-restauration à l'époque pour les TVA et choses comme ça. C'est sûr que ça s'organise, là, c'est pas d'organisation. Mais je pense que c'est surtout qu'on prend les gens pour des cons depuis le début, quoi. C'est ça le problème. Et d'une manière assez agaçante, parce que on fait de l'écologie punitive alors qu'on sait que c'est justement le truc qu'il faut pas faire. On taxe le plus facile à taxer, c'est-à-dire les gens qui roulent avec des diesels. On oublie les avions, les bateaux et tout ce qui est très polluant. Donc je veux dire, c'est pour ça que les gens sont en colère, parce que ça m'insupporte qu'on me raconte des histoires. J'ai même entendu Pompidis ce matin, à qui on posait la question sur les containers et qui pataugeait dans ses réponses. D'ailleurs, tout le monde patauge dans ses réponses. Ce que les gouvernements a message de dire, c'est écologique. Mais faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles quand même. C'est pas écologique les diesels. Alors à ce moment-là, il faut arrêter d'en fabriquer, il faut nous les confisquer, et puis nous donner des vrais moyens d'acheter un véhicule propre. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à encore maintenant, on continue à acheter des voitures diesel, c'est sur les catalogues des constructeurs, même si ça se vend moins. Mais je veux dire, on a trouvé un argument qui ne tient pas la route, c'est pour ça que je pense que les gens sont mécontents et sont en colère, peut-être pour tout un tas d'autres raisons, mais là, c'est quand même l'étincelle qui a fait que, effectivement, on est en train de nous vendre un carburant qu'on nous a vanté pendant des dizaines d'années à acheter des moteurs diesel, pour liquider un stock de gasoil qui coûte pas cher à fabriquer. Aujourd'hui, on va acheter du gasoil plus cher que de l'essence. Ouais. C'est complètement absurde.
Mais la colère est dans la connerie, là. Vous allez manifester, alors, Jean, le 17?
Je vais voir ce qui se passe, C'est un samedi. De toute façon, ça va pas faire grand mal, hein. Les gens vont aller dans la rue. Et ce qu'ils ont peur, c'est le nombre de mobilisants, je pense, de gens mobilisés. Ouais. C'est ça qui les fait peur. Mais après, Castaner, il fera comme tout le monde, hein. Il est dans son rôle en disant qu'il faut pas le faire. Effectivement, il y a plein de manifs qui se montent comme ça, je vous entendais, vous avez raison, il y a plein de manifs qui n'ont jamais été sanctionnés, la FNSE qui a cramé des préfectures, qui a mis du fumier partout, on n'a jamais arrêté personne, et je me rappelle même de l'URSSAF qui avait été massacré une fois, et il n'y a jamais de suite, donc là, bon, les débordements, effectivement, même quand c'est organisé, vous voyez les Black Blocs qui cassent tout, et pourtant la CGT, ils ont un service d'ordre musclé, ils n'arrivent pourtant pas à les bloquer.
Ça manque d'argent.
On nous prend pour des courges, là, et ça, c'est un peu agaçant.
C'est un témoignage de bon sens, et je pense que ce mouvement, il est là justement sur cette France-là qu'on a marre qui est plus dupe en fait, et qu'on a marre d'être pris pour des cons. C'est un cri du cœur de dire arrêtez de croire qu'on est aussi stupide. On voit bien que cette mesure, elle est tout sauf écologiste. Enfin, elle est écologiste à la marge, mais sur les containers, on ne fait rien. On continue d'avoir des accords internationaux. Sur les avions, le kérosène, on ne fait rien. Sur l'alternative propre n'existe pas. On va pas aller emmerder Renault ou Peugeot pour leur dire allez, faites des voitures propres maintenant, arrêtez.
Mais comment Macron et son service de communication n'ont pas le même raisonnement que Jean, quand même. Ils sont tous intelligents, ils ont quand même des diplômes.
C'est du bon sens.
Même en termes d'investissement, je trouve qu'il y a des questions à se poser. Ça fait combien, 15 ans qu'on entend parler de la pile à combustible comme vraiment
le
moyen non polluant de l'avenir. Or,
et non pas le moteur électrique.
La pile à combustible. Or, il y a encore très peu d'investissements qui sont faits dans la recherche, parce que le gros problème, c'est le conditionnement de l'hydrogène, les batteries, comment réserver tout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une telle dénaturation de l'écologie par la politique que si on a investi assez massivement dans les éoliennes, c'est que les éoliennes, ça se voit. Donc les électeurs se disent le gouvernement fait des trucs, regardez ces grands machins blancs. Mais en revanche, la pile à combustible, ça se voit pas. La géothermie, qui est également vraiment une alternative d'avenir non plus loin. Vous savez, c'est ces sondes qu'on enfonce profondément dans la Terre.
Mais même sans ça, vous avez...
Ça ne se voit pas non plus. Les sommes investies dans la recherche ne sont pas si énormes.
Sur l'existant, enfin, vous avez un gouvernement qui se veut écologiste, rions un peu, mais on est en train de solder les bijoux de famille, les barrages hydrauliques. Qu'on coûtait des millions à construire avec l'argent du contribuable français, qu'on va vendre à la compétition sous prétexte d'ouverture européenne.
Mais il n'a pas pris Jean-Vincent Placé, je pense que ça aurait été l'homme de la situation, à mon avis.
On a Alain de Haute-Garonne en ligne avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour à Sud Radio.
Bonjour.
Voilà. Alors, je résume. Moi, je suis un papy de 77 ans. J'ai rarement manifesté dans ma vie, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, avec deux ou trois copains, on a pris l'initiative de faire une manifestation dans notre ville qui a 800 habitants, qui est à 50 km de Toulouse, et ceux qui vont travailler à Toulouse, ça leur fait 100 km et des fois et plus tous les jours. Alors, on manifeste pour dire non à l'augmentation des taxes sur les carburants. Et là, je voudrais dire quand même quelque chose que personne ne dit. Le plus grand scandale du siècle, c'est l'écart sur les salaires. Quand on pense que 1% de la population possède 88% des richesses mondiales. 1% possède 88% des richesses mondiales. C'est ça le véritable scandale du siècle. Et, je donne un autre exemple, un ouvrier qui touche par mois 2000 euros net, c'est pas rien déjà pour un ouvrier, dans sa vie, 42 ans de salaire, il touchera 1 million. Or, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, il y a des gens qui, en un seul mois, vont toucher plus qu'un ouvrier pendant toute sa vie, pendant 42 ans de travail. Eh bien, moi, je dis au gouvernement, allez chercher l'argent là où il est. Il y a quand même des gens qui gagnent 1 milliard et plus dans l'année. C'est un véritable scandale. Moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas autant d'écart dans les salaires.
Mais monsieur, il paye des impôts, ils ne veulent pas cet argent et on n'est pas dans un régime communiste.
Et, d'autre part, la grande pauvreté ne cesse de reculer dans le monde. Alors, je sais bien que quelques cas.
Ce que dit Alain est juste. Il y a un écart. Il y a un écart.
Non, mais l'écart de salaire ne crée pas la pauvreté. C'est ça que je veux dire.
Crée pas la pauvreté. Sauf que ce qu'on entend beaucoup ces jours-ci, c'est aller prendre aux riches plutôt que de prendre aux pauvres.
Vous avez un proverbe chinois qui vous dit moins il y a de gros, plus il y a de maigres. Un proverbe chinois. On n'a rien dit quand on a dit tout ça. Mais je comprends ce monsieur. Il y a un déséquilibre.
Non, mais ce que les gens ne comprennent pas, qui ont du mal. J'entendais un monsieur qui disait moi, je gagne le SMIC, j'ai 3 enfants. Je m'en sors pas.
Je prends ma bagnole tous les jours.
Je prends ma bagnole et je m'en sors pas. Effectivement, il comprend pas qu'on n'ait pas taxé plus ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi on s'attaque à l'essence ?
Parce qu'on est dans une économie ouverte. Et d'ailleurs, quand François Hollande a essayé de s'en prendre aux très gros revenus, il a été tapé. On est dans une économie ouverte où quand vous taxer les riches pour reprendre la formule, et ben ils s'en vont ailleurs.
Ça s'appelle le mur de l'argent, et c'est vrai que c'est un grave problème.
Ça s'appelle le monde d'aujourd'hui.
Oui, mais enfin, il y a ça, vous avez vu ça quand Mitterrand était élu, quand Hollande est arrivé aussi, vous avez tout le temps ça. À partir du moment où vous dites, on va commencer à taxer, évidemment, on peut très vite partir. Et les riches aujourd'hui payent peu d'impôts parce qu'ils ont des moyens d'avoir des conseillers fiscaux, des choses comme ça. Et qu'est-ce que met le gouvernement face à l'évasion fiscale ? Gérald Darmanin qui va avec son petit portable regarder les réseaux sociaux pour voir un peu si vous avez une voiture de luxe ou un yacht. C'est ridicule. Il faut des moyens, bien sûr, pour lutter contre l'évasion fiscale. Il faut aussi que les multinationales arrêtent de faire ce jeu du sandwich hollandais. En Europe, on est les champions de l'évasion fiscale parce qu'on peut, avec les différents pays européens, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, s'arranger pour que les profits ne soient jamais taxés ou rentrent dans la case. Et puis, on a aussi des gouvernements qui font des cadeaux là où ce n'est pas nécessaire. Le CICE, c'est des milliards de cadeaux pour quoi ? 300 000 emplois, c'est rien. Enfin, si on avait donné ces milliards aux 300 000 pour ces emplois, c'est autre chose. Donc, il y a un problème de politique néolibérale, de vue aussi à courte vue. Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est pour
parce
ça que
on peut voir aussi en donnant
déjà,
de l'argent,
déjà,
la consommation,
déjà que la
ça aide.
France, pardon, mais... que la France soit néolibérale. Ça fait rire.
Pas la France. Je dis, on est un système. On est. Ah oui. Quand vous dites qu'il y a un système international, d'accord. Il est néolibéral. On peut pas le nier.
Absolument, et on peut même le dire pour le système européen, on peut même le dire d'ailleurs en premier pour nos voisins qui réussissent beaucoup mieux que nous dans la lutte contre le chômage. La France qui n'est pas ni libérale ni néolibérale a les résultats les plus mauvais en termes de sens de la courbe.
Je partage les points de vue de mes trois collègues, mais moi ce qui me frappe, j'en avais parlé la dernière fois, Bernard Arnault, qui est quand même l'homme le plus riche de France, pour sa fondation, a bénéficié de près d'un demi-milliard d'euros de subventions de fonds publics. Si vous voulez, vous voyez, c'est des riches plus en plus riches, mais qui en plus bénéficient d'avantages absolument indus. C'est tout ça se ras-le-bol.
Parce que sinon, il allait la faire ailleurs.
Voilà. Et on ne connaît pas forcément le dossier, mais il n'a pas volé l'argent. C'est-à-dire qu'il il bénéficie d'un système qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour ouvrir sa fondation...
J'attaque pas seulement Bernard Arnault, j'attaque les pouvoirs publics qui acceptent d'être confronté à ce système-là où effectivement lui doit faire du chantage en disant si vous voulez pas moi je vais ailleurs.
Et les joueurs de foot, ces milliardaires qui sont sur un terrain de football, c'est pareil, on peut critiquer, mais voilà, c'est toute une économie, une façon de voir les choses. Oui, l'argent roi.
Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de ce guide pour lutter contre la radicalisation qui va être mis en place pour les enseignants, justement pour les aider à repérer les élèves qui seraient radicalisés. Est-ce que ce sera efficace ? 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi en direct, vous retrouverez ensuite André Bercoff, 3 ans après les attentats où en est la menace terroriste. Est-ce qu'on lutte assez contre la radicalisation ? La question est un peu... un peu benette, vous allez me dire, parce qu'on ne lutte jamais assez contre la radicalisation. Récemment, le secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, Laurent Nunez, déclarait que les attentats du type Bataclan, puisqu'aujourd'hui on commémore le troisième anniversaire donc de ces sanglants attentats du Bataclan, étaient beaucoup moins probables. Dans le même temps, on apprend que d'ici 2019, 48 détenus terroristes islamistes et 402 détenus de droit commun radicalisés qui devraient sortir de prison. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette menace terroriste qui n'est plus forcément effectivement une menace d'État comme elle a pu l'être de l'État islamique ou de Daesh, sauf qu'il y a une menace intérieure qui est là, peut-être pas aussi coordonnée. Donc comment est-ce qu'on lutte contre cette menace, Alexis Poulain ?
Le renseignement, mais qui est bien désarmé quand, au lieu d'avoir affaire à des groupes organisés qui vont organiser des attaques de grande ampleur, on a affaire à une personne avec un couteau ou une camionnette ou une voiture. Maintenant, on va être dans ce type d'action qu'on voit se répéter déjà en France et qui est sous le radar d'une certaine façon. Et puis, on a aussi un problème, c'est on n'a pas trouvé encore la recette miracle pour déradicaliser. Un cerveau radicalisé, ça reste un cerveau qui en veut à l'État, qui en veut à la France, qui en veut, qui a une construction politique qu'on ne va pas défaire comme ça, parce qu'on n'est plus dans le cas religieux, là on est aussi dans une vision politique du monde, qui est celle d'un combat, qui est celle d'une guerre permanente. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui, qu'on ait les outils pour déradicaliser psychologiquement des gens qui sont rentrés dans une logique de haine, une logique de guerre.
Oui, Judith Weintraub.
Il y a quand même des mesures simples. Par exemple, l'expulsion systématique des étrangers qui sont fichés, non pas fichés S, mais fichés OFSRPT, SPRT, le fichier de suivi des personnes radicalisées pour terrorisme. Ce fichier compte environ 20 000 noms. Il y a environ 3 400 étrangers, purs étrangers. Je ne parle pas des doubles nationaux. Que font-ils en France ? Éric Ciotti, pour les Républicains, le réclame régulièrement. On n'a pas de réponse satisfaisante sur ce fait. On a des moyens de détection assez efficaces de la radicalisation. Je parlais de Jean-Michel Blanquer au début de l'émission. Il a mis en place une cellule qu'il a appelée Veille Laïcité. Elle existe depuis 6 mois. Elle est efficace depuis 6 mois. Depuis 6 mois, alors ça c'est pour les établissements scolaires, il y a 400... interventions qui ont été diligentées après signalement pour radicalisation. À part ces moyens très de l'État, vous vous baladez dans certaines villes de France où vous voyez par exemple des gamines voilées. Je vais régulièrement à Marseille, j'en vois régulièrement. Et quand je dis des gamines, c'est des toutes petites filles. Ça me paraît être un signal à bas bruit.
Alors, c'est pas forcément de la radicalisation.
Si, c'est de la radicalisation. C'est pas forcément de la radicalisation violente, mais de la radicalisation. Je crois assez peu à la distinction entre mouvement quiétiste et mouvement violent. Mm-hmm. L'un étant le terreau de l'autre.
On a Mathieu en ligne avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour.
Pour répondre à votre question, donc si tout a été fait, bien sûr que vous avez raison de dire qu'on peut toujours faire plus, mais pour moi, non, ça n'a pas été fait pour la bonne et simple raison, parce que je voudrais évoquer un sujet qui me tient à cœur et qui est très rarement évoqué, sauf lors des effets divers qui ont lieu en général pendant le jour de l'an, le 14 juillet ou soirée Halloween, où les policiers, les pompiers se font agresser dans ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. Vous savez, c'est qu'on peut appeler aussi les zones non-droit, où finalement, ça n'a pas du tout été réglé. J'aurais préféré qu'ils prennent à bras-le-corps ce problème-là après les attentats terroristes, parce que c'est là où prospèrent finalement les théories salafistes, djihadistes, et où on peut transformer un petit délinquant en une espèce de terroriste low cost, passez-moi l'expression, mais on en a vu, on s'en est rendu compte. Et aujourd'hui en France, écoutez, on est en 2018, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis parce que j'habite juste à côté, il est encore et de plus en plus difficile, voire impossible, pour un couple homosexuel de vivre sereinement, pour une famille juive d'y habiter, pour une jeune fille de sortir le soir et de s'habiller avec une mini-jupe, de trouver une boucherie non halal. Donc je trouve que entre la montée de l'islamisme, du communautarisme, il y a un lien quand même dangereux avec ensuite les théories salafistes et djihadistes qui mènent au terrorisme. Donc je trouve qu'en amont, on aurait dû s'attaquer à ce terreau, au prospère, ce salafisme rampant et voire conquérant. Mmh.
Merci Mathieu.
C'est un problème partagé par beaucoup de pays européens. Quand vous avez la Grande-Bretagne qui refuse d'accueillir Asia Bibi en disant que ce serait un problème de sécurité pour elle, compte tenu des communautés pakistanaises en Grande-Bretagne, vous voyez que là l'État britannique a démissionné aussi. En Allemagne, on va voir aussi cette montée de problèmes. Il y a eu l'affaire du jour de l'an qui n'a pas été réglée non plus sur les agressions sexuelles du jour de l'an. Et là, on a beaucoup de problèmes aussi. La montée de l'AFD, elle est liée à ça aussi.
C'est lutter contre le communautarisme pour lutter contre la radicalisation.
Bien sûr, un lien direct. C'est arrivé à dire à un moment...
L'auditeur l'a dit, le mot important, c'est terreau.
Voilà, on s'est battu pour vivre ensemble, pour que la réforme vive avec le catholicisme. Enfin, les guerres de religion, l'Europe connaît bien.
Confère Gérard Collomb, et avant l'islam. Côte à côte, face à face.
Bien sûr, mais on s'est battu pendant des siècles. Et là, on est en train de faire un grand bond en arrière en disant simplement chacun chez soi, avec qui sa mosquée, qui sa synagogue, qui son église. C'est pas comme ça qu'on peut faire en France ou même dans les grands pays européens. Donc il va falloir aller dans ces quartiers qui veulent justement mettre à la marge les autres communautés pour dire non, c'est pas l'idée de faire des ghettos. Il va falloir voir comment. Mais est-ce qu'on peut le faire ? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est pas trop tard ?
Vous êtes gentil quand vous dites on va aller voir en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Non,
il y a une solution. En Chine, ils l'ont trouvée.
Ah, Jean-Luc Toulouse.
Avec les Ouïghours.
La surveillance de masse.
Voilà, carrément un camp de concentration de toutes ces personnes-là. Comme enfin. Ça. Non, mais... là, je blague, mais ils le font. Mais ils le font quand même. Hein. Ouais. Non, je voudrais parler quand même de. Mais tu l'as évoqué, quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, qui vit. Il y a 100 000 Marseillais qui vivent dans les taudis, dans des choses d'insécurité. Et là-dedans, il y a aussi des religieux, mais il y a aussi des gens très pauvres à qui on sert certainement ce genre de message religieux qui peut effectivement faire écho parce qu'il y a un ras-le-bol. Alors je ne dis pas que ça justifie tout ça, mais c'est un terreau aussi, ce genre de choses.
Je rebondis à ce que dit Jean-Luc Toulouse.
Et puis, alors, une dernière chose. Oui. Quand je vois aussi le président qui hésite sur ce qui s'est passé en Turquie, et qui veut excuser l'Arabie Saoudite, qui est quand même un pays absolument pas moyenâgeux. Hein. Je veux dire, les discours et les actes font que tout ça, y a des gens qui marchent dans la commune, parce que lorsqu'on est vraiment pauvre, sans idée, sans idéal, etc., on peut croire à ce genre de choses, parce que dans le temps, dans l'histoire, que ce soit la religion catholique ou d'autres religions, il y a eu aussi ce genre de choses.
Mais ça a marché il n'y a pas très longtemps.
Il y a plusieurs siècles. Oui.
Plusieurs siècles. Oui. Ça a marché au Liban avec le Hezbollah. Le Hezbollah a fait fortune et a réussi à avoir une armée et une force considérable, y compris politique, parce que justement, il s'est nourri sur ce terreau. Sur ce terreau de personnes totalement abandonnées.
Et c'est pour quand ?
Abandonnées.
Oui. Effectivement, on fait référence à la Turquie. Il y a eu beaucoup de réactions justement sur la présence du président Erdogan.
Il faut faire attention parce que on basculera rapidement vers la Libye sociale.
Vous avez raison. C'est quand même un terreau quand même.
Mais c'est pas le principal aujourd'hui.
On peut quand même pas comparer la démocratie française à certains pays sous dictature où effectivement les religieux ont pris en charge le social parce que le pouvoir était corrompu et se fichait absolument du sort des déshérités. C'est pas comparable. Et en plus, il y a des tas de gens qui en France vivent dans les mêmes conditions et qui ne sont ni radicaux, ni islamistes, de quelques branches que ce soit.
Et l'État a démissionné parce que dans ces quartiers, c'est les associations qui ont récupéré de l'argent public. Oui. Et il y a eu un paquet de scandales sur de l'argent détourné, notamment pour la réinsertion, pour la déradicalisation, ce que vous voulez. On a laissé faire des associations sans avoir trop de contrôle, finalement.
Oui.
Et ça, c'est une démission de l'État.
Oui, tout à fait. Mais ça, les associations, il faudrait vraiment j'en parle au début, des commissions d'enquête très sérieuses sur le cas. Mais pour revenir sur les terroristes, les cas qu'on a ne sont pas des cas de gens particulièrement marginaux ou déshérités.
Non, c'est ça,
hein.
Oui.
Attention, le profil n'est pas celui-là.
C'est pas celui-là. Ce sont des gens qui ont été, si vous prenez les frères Kouachi, qui étaient éduqués, qui sont allés à l'école, etc.
Les terroristes, oui. Mais les sympathisants ou les... C'est quand même une grande majorité de gens déshérités.
Merci à tous les quatre. On se retrouve demain à 10h et dans un instant, vous retrouverez André Bercoff. À demain et très bonne journée sur Sud Radio.